Le dialogue social, c'est respecter le calendrier que nous nous sommes fixés. Je présenterai mercredi prochain, à 12h, l'intégralité du projet du gouvernement. Le débat pourra ainsi s'organiser autour de propositions claires qui garantiront aux Français la justice, la solidité, la solidarité de leur système de retraite.
La justice, la solidité, la solidarité, c'est très bien et ce n'est pas rien. Il faut quand même noter l'ambition extrême du projet, du genre à laisser votre nom dans l'histoire. Aucun pays au monde ne s'est engagé dans une réforme de son système de retraite de cette ampleur. La Suède, qu'on évoque souvent, en était bien loin. Et si on parle de calendrier, pour les Suédois, ça a duré des années. Même une fois son texte de loi voté en 94, tout ça a failli capoter au moins jusqu'en 98. Alors stop ou encore, c'est ce qui se joue en ce moment en France. Rendez-vous mercredi 12h. Enfin, on jugera s'il ne s'agit vraiment que de justice, que de solidité, que de solidarité. On écoutera attentivement ce que dit le gouvernement sur d'éventuelles économies. On essaiera d'évaluer s'il a le temps, s'il se donne les moyens, et puis aussi de comprendre si au final son projet enferme ou libère le débat. Plusieurs retraites universelles sont possibles, écrit ce matin l'économiste Thomas Piketty dans Le Monde. Mais maintenant que la grève a démarré, est-il encore possible d'en discuter? Il me semble qu'un des soucis, c'est que dans la rue, il ne s'agissait pas seulement des retraites.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bienvenue, c'est samedi, c'est Économie, une émission réalisée par Coy Nguyen. Valentin Pérez est attaché de production et ce matin, Johanna Gabric est à la technique. Vous avez compris, en raison d'appels à la grève émanant de plusieurs organisations syndicales, ce samedi, notre magazine est entièrement consacré à la réforme des retraites, avec toujours la même mission, expliquer, faire entendre une diversité de grilles de lecture, ça c'est le cahier des charges d'une radio de service public, financé, oui, par la redevance, et en passant, je vous glisse un chiffre que je ne connaissais pas, Radio France coûte moins de 25 euros par foyer et par an.
Même quand on ne l'écoute pas.
Emmanuel Le Chiff, vous nous écoutez, vous êtes là?
Mais oui, non.
Ce qui nous permet donc de vous faire entendre. Emmanuel Le Chiff de BFM Business, bonjour.
Bonjour.
Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques, bonjour Christian.
Bonjour à tous.
Alors ça, ce sont les débatteurs, vous allez nous démêler le vrai du faux de cette réforme des retraites. Christian, Emmanuel, et comme c'est un sujet complexe, toutes les forces sont bienvenues. Nous avons avec vous une experte de haut niveau. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra.
Ma vie au boulot est donc débat à trois ce matin sur des faits et pas des fakes. Ensuite, parce que les grands enjeux, ça ne se débat pas qu'en studio, le micro du Magéco était aussi dans la manifestation avant-hier. Où sont les nœuds du problème? Que peut changer cette mobilisation à la future réforme? Vous entendrez le reportage d'Anaël Verzo. Il y a donc le poids de la rue, mais la réforme, elle se joue aussi, bien sûr, lundi au ministère des Solidarités, où seront reçus les partenaires sociaux. Une vision de l'intérieur, des coulisses ce matin, avec notre invité. Il représente les artisans, les commerçants, les libéraux. C'est Alain Grisé de l'UDP, l'Union des entreprises de proximité, dans ce studio à 9h45. Voilà, vous avez le programme. On refait la réforme, tout simplement. C'est parti. Alors, au fait, pourquoi est-il bien nécessaire de changer le système? Écoutez la réponse de la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye.
Je ne pense pas qu'aujourd'hui on ait du tout le meilleur système. On a un bon système, notamment parce qu'on y consacre une part importante de notre richesse collective. Mais quand vous avez une femme sur cinq qui bosse jusqu'à 67 ans pour pouvoir avoir une retraite à taux plein, elle est où la justice à l'intérieur de ce système? Cette année, moi j'ai 40 ans. Dans votre 40e année, vous recevez votre premier décompte pour la retraite. En fait, je me suis rendu compte en regardant ce décompte que tous les petits boulots que j'avais fait quand j'étais étudiante, ils n'étaient pas du tout pris en compte parce que j'atteignais pas le fameux seuil de 150 heures travaillées par trimestre. Et au fond, je trouve que ça, c'est une véritable injustice. Et donc aujourd'hui, je peux pas accepter qu'on dise que le système marche pour tout le monde dans le meilleur des mondes. Il y a des imperfections et je dirais même, il y a des injustices. Donc on veut profondément le changer en gardant un principe, celui de la solidarité entre les générations.
Un système qui fait donc d'ores et déjà des gagnants et des perdants, ça c'était Sibeth Ndiaye, jeudi soir sur France 2. Et pour autant, hier matin sur France Inter, on a compris que le régime universel ne fait pas du tout rêver le numéro 1 de Force ouvrière, Yves Verrier.
J'avais compris que le « en même temps », c'était « on prend les bonnes idées ici et les bonnes idées là », droite, à gauche, comme vous voulez, Là, pour le coup, je ne sais pas qui, mais c'est une très mauvaise idée qui a été donnée au gouvernement, aux candidats à la présidentielle, d'aller vers un système universel par points. Parce que, bien évidemment, quand vous dites universel, bon, ça sonne bien, c'est plutôt sympathique, mais qui a vraiment décortiqué ce que ça signifiait ? Il faut bien comprendre, là où on calcul en annuités, en trimestres qu'on valide. Quand vous travaillez un mois, vous validez un trimestre aujourd'hui. Demain, vous n'aurez qu'un mois de points achetés. Et ça dépendra de la valeur de service du point au moment de transformer ces points en pension. Qui va décider ça ? Eh bien, avec un régime unique, c'est l'État qui met la main sur le pilotage du système. C'est inévitable.
Alors, c'est frappant quand même la force de ces affirmations dans ce débat sur les retraites. Sandrine Emmanuel Christian, ce matin, pour nos auditeurs, on va jouer au vrai du faux. Vous allez nous dire ce que vous pensez de ces affirmations. Christian Chavagneux, notre système de retraite est en péril.
Faux. D'accord. Faux, complètement. Moi, je suis d'accord avec ce qu'avait dit le candidat Emmanuel Macron. Pendant la campagne présidentielle, il n'y a pas de problème financier. S'il veut faire une réforme, il y a peut-être d'autres motivations, mais c'est pas la motivation première, c'est pas l'équilibre budgétaire. Le Conseil d'orientation des retraites, il y a une quinzaine de jours, nous a refait les derniers calculs compte tenu de ce conseil, nous a dit, entre le plus mauvais et le meilleur scénario, à l'horizon 2025, entre 8 et 17 milliards de déficit. Bon, là, faut prendre la situation financière de l'État-providence dans son ensemble. On sait que le trou de la sécurité sociale va bientôt être remboursée. D'ailleurs, on aura épuisé tout et on nous prélève en gros entre 15 et 18 milliards tous les ans. Donc à partir de 2024, on va avoir 15 à 18 milliards de disponibles sans avoir augmenté des cotisations et des impôts. Donc 15-18 d'un côté, 8-17 de l'autre. On voit bien que ça va marcher. Vous me direz, et un peu plus loin à l'horizon 2030, le corps, Conseil d'orientation des retraites, nous dit si la croissance n'est que de 1% en moyenne d'ici 2030, ce qui est vraiment pas grand-chose, le poids des dépenses de retraite va passer de 13,8% du PIB à 13,9% du PIB. Donc on est vraiment, voilà, tout va bien. Et vous me direz, à plus long terme, ça va aussi, c'est-à-dire l'horizon 2070. Pourquoi ? Parce que les gens liquident leur retraite de plus en plus tard. Donc, ils prennent moins sur le système de retraite. Les retraites diminuent déjà depuis 2013. Donc, ça nous coûte de moins en moins cher parce que les nouveaux qui arrivent à la retraite ont des carrières un peu plus hachées que ceux qui ont eu la chance d'avoir leur carrière pendant les 30 glorieuses. Et puis, on continue à gagner de l'espérance de vie, mais à un rythme inférieur au scénario central de l'INSEE qui sert pour tout le monde. Alors, tant pis pour nous, c'est-à-dire on gagne moins vite de l'espérance de vie que ce qu'on croyait, mais du coup, c'est bon pour le régime des retraites.
Alors, Emmanuel de Chypre, il y a beaucoup de choses dans ce que vient de dire Christian. Il nous dit en gros que on a en effet potentiellement un déficit sans doute entre 8 et 17 milliards à l'horizon 2025, mais qu'on a des rustines, qu'il y a des sous quelque
plus
part.
Plus que des rustines.
Plus que des rustines. Moi, j'ai envie de savoir combien de temps ça peut durer. Et je vais me tourner vers Emmanuel. Et puis ensuite, on sent quand même qu'il y a un petit problème, Christian, financier. Si vous dites les retraites, s'il n'y a peut-être pas de dérive des dépenses, mais il y a un souci de baisse du niveau de vie des retraités. Ça, c'est peut-être un problème financier aussi. Emmanuel, qu'est-ce que vous en pensez ?
Après, on va pas revenir sur tout ce qu'on a déjà dit sur le côté plutôt plus généreux du système français et plus coûteux aussi du système français. Quand Christian prend le sujet dans sa globalité, effectivement, les tendances, elles sont pas apocalyptiques à long terme, même si quand même un système qui a été bâti pour un monde dans lequel vous aviez 5 ans d'espérance de vie à la retraite et que vous aviez 4 cotisants pour un retraité et que vous basculez dans un monde où vous avez une espérance de vie à la retraite qui est plutôt de 15 à 20 ans avec 1,2, 1,3 cotisants pour un retraité, ça demande quand même des ajustements. Le problème, c'est que si macroéconomiquement, le système est plutôt équilibré, les tendances de chaque système faisaient que il y avait quand même des tendances insoutenables et que l'effort de solidarité qui est demandé à long terme entre certains régimes posait des problèmes quand même insoutenables. C'est-à-dire qu'il y a des si on peut continuer globalement à considérer qu'il n'y a pas de problème financier.
On n'a pas l'épée dans les reins, c'est ça ?
Non, globalement. Mais le système, par exemple, de la SNCF, vous voyez bien qu'en lui seul, il n'est pas soutenable. Donc, il appelle de la solidarité supplémentaire. On peut décider de la mettre en œuvre. Mais il y avait quand même des tendances qui étaient problématiques. Mais je suis d'accord avec cette idée fondamentale qui est qu'il n'y avait absolument pas d'urgence à mettre en place cette réforme telle qu'elle est. Et même si on considère qu'il y avait des ajustements à faire, les ajustements paramétriques, etc., pouvaient suffire amplement. Surtout qu'en plus,
on aura. Non, mais est-ce qu'on est d'accord sur le fait qu'on aura de toute façon peut-être des ajustements à faire.
Juste pour terminer, l'ambition d'Emmanuel Macron, elle est délirante dans la mesure où il n'y a pas un pays au monde où vous n'avez qu'un seul régime de retraite. C'est-à-dire que dans tous les pays, vous avez un régime pour les fonctionnaires, un régime pour les salariés, un régime pour les indépendants. Je trouve qu'en plus, l'objectif qu'on se fixe, à partir d'une contrainte qui n'est pas énorme, est totalement démesuré.
Non mais Sandrine Foulon, on est, si vous voulez rebondir sur ce que vient de dire Emmanuel, on n'est pas du tout d'ailleurs en train de dessiner un seul régime. On est en train de dessiner plusieurs régimes dans ce régime universel.
Oui, bien sûr. Et puis en plus, on va voir avec la période de transition qu'on va nous annoncer mercredi, qu'il va y avoir des délais très différents selon les catégories, les régimes spéciaux notamment. Mais je voudrais répondre quand même à Emmanuel sur le cas des régimes spéciaux. Alors, c'est vrai, c'est un régime déficitaire, il coûte de l'argent puisqu'ils ont une démographie comme les agriculteurs qui est très défavorable. Mais c'est faux, c'est pas un problème qui n'est pas réglé.
Il coûte combien, Sandrine ? L'ensemble des régimes spéciaux, l'État, ce que doit mettre l'État au pot pour...
À peu près 5 milliards, entre 5 et 8 milliards. Voilà, pour colmater. Mais aujourd'hui, enfin, vous l'avez répété, Christian l'a dit, le Conseil d'orientation des retraites, ça fait longtemps qu'il fait des projections et il intègre les régimes spéciaux, la démographie. Il ne découvre pas qu'il y a des cheminots en France, qu'il y a un régime de la RATP. Donc on voit que globalement, tout va bien sur l'ensemble du régime. Et puis, je voudrais ajouter qu'il y a eu des réformes pour la RATP, pour la SNCF, en 2004, en 2008. On nous parle toujours de l'âge de départ en retraite à 52 ans, parce que c'est l'âge des conducteurs. Mais d'abord, si vous partez à cet âge-là, vous partez souvent avec une décote. 30% des agents de la SNCF partent avec une décote, c'est-à-dire avec un malus sur leur retraite. C'est le cas de seulement 9% dans le public. La génération de 73 devra avoir cotisé 43 annuités. 43 annuités, c'est le privé. C'est ce qu'on fait. Donc, si vous voulez, vous pourrez toujours partir.
Vous êtes en train de nous dire que les régimes spéciaux vont, à un moment donné, s'éteindre.
Sachant que le statut des cheminots, déjà, s'éteint.
Mais exactement, le 1er janvier,
C'est
un problème qui va s'éteindre. Au 1er janvier, tous les cheminots seront recrutés sur un statut, lambda, d'un salarié lambda. Il n'y aura plus de retraite.
Mais ce qui menaçait la viabilité du système, ce n'est pas des problèmes comptables, c'est plus des problèmes d'équité, en fait.
De politique, vous êtes en train de nous dire que les Français attendaient. Oui, c'est quelque chose plutôt de politique, en fait, qu'on met sur la table, que d'économique quand on parle des régimes spéciaux.
Non, mais il y a équité, il y a pénibilité. Enfin, aussi. Et aujourd'hui, quand on nous dit le conducteur du Havre, c'est pas normal qu'il parte plus tard. Mais est-ce que c'est normal aussi que le conducteur du Havre, il arrive éreinté et qu'il puisse plus bosser ? Enfin, il y a aujourd'hui.
Non, la question, c'était de dire que par rapport aux conducteurs de la RATP, ses conditions de travail sont pas fondamentalement différentes.
Oui, mais il faut pas non plus niveler sur le bas. On peut aussi considérer que.
Donc ça sera dans les éventuelles négociations sur la pénibilité.
Exactement. C'est
clair. Alors deuxième affirmation que je vous soumets, Christian, Emmanuel, Sandrine. Avec la réforme, tout le monde va y perdre. Emmanuel Le Chypre.
Non, tout le monde ne va pas y perdre. Alors, on sait déjà qu'il y a quelques profils de carrière, quelques métiers qui ne vont pas y perdre. Objectivement, les petits artisans, les très petits commerçants, les petits agriculteurs, aujourd'hui, vont gagner à cette retraite qui, si vous cotisez suffisamment longtemps...
C'est toujours aussi important.
Oui, mais c'est là où on est dans la perversion du vrai système universel. Dans un vrai système universel, vous n'avez pas de considération sur la durée de cotisation, etc. Et là, on a réintroduit tout ça. Mais si vous avez cotisé suffisamment longtemps, et en général les agriculteurs par exemple, ils ont travaillé longtemps, vous aurez une retraite qui ne sera pas inférieure à 1000 euros, comme c'est le cas suffisamment aujourd'hui. Après, il y a beaucoup de choses qui vont dépendre de ce qui va être discuté. Mais on ne peut pas dire que tout le monde va perdre à cette réforme. Oui, il y a des cas qui vont perdre. Enfin, on verra sur les fonctionnaires, certaines professions libérales qui vont devoir cotiser plus, etc. Mais tout le monde ne va pas perdre.
Alors la question, c'est peut-être quelle proportion de Français vont perdre, Christian Chavagneux.
Non, mais ne perdons pas l'objectif politique du gouvernement, qui est de réduire l'ensemble des dépenses publiques. Et comme dans les dépenses publiques, il y a les dépenses de retraite. Quand vous plafonnez le montant d'argent qui peut aller pour financer les retraites, alors que vous allez avoir de plus en plus de retraités, ça veut dire forcément qu'il y a moins de retraites pour chaque personne. Mais ça date pas de la réforme du gouvernement. C'est déjà inscrit dans les réformes précédentes et le Conseil d'orientation des retraites à l'horizon 2070 nous dit aujourd'hui la pension moyenne c'est à peu près 65% du revenu moyen d'un actif. En 2070, nous dit le COR, ça passera à moins de la moitié. On a sûrement été trop loin dans les réformes précédentes. Et le vrai débat sur les retraites, vous l'évoquiez tout à l'heure Alexandra, ça devrait être comment est-ce qu'on remet de l'argent pour éviter que se profile le retour d'une chose qu'on avait complètement oubliée en France, qui était le retour des retraités pauvres. Aujourd'hui, tout à l'heure...
Il y en a trois fois moins aujourd'hui. aujourd'hui. Qui
a... Voilà, Emmanuel a dit, oh, on a quand même un système qui est le plus coûteux. Mais oui, mais sauf que pourquoi on a un système le plus coûteux, c'est qu'aujourd'hui, dans les plus de 65 ans, il n'y a que 7,8% de la population française de plus de 65 ans qui est pauvre, alors que dans le fameux système suédois qui nous sert de référence, c'est 16%. Donc vous voyez, le modèle du gouvernement, qui est aussi l'Allemagne, c'est à 17%. Donc oui, on a un système coûteux, mais on n'a pas de retraités pauvres.
On est aussi un des seuls pays dans lequel les retraités ont un niveau de vie supérieur à celui des actifs.
Aujourd'hui, ça vient d'être en glorieuse et c'est en train de baisser. C'est pour ça qu'on équilibre le système, malheureusement, qu'on aura moins de pensions.
Sandrine Foulon, un avis objectif sur les femmes, absolument. Comme vous tous, bien sûr, mais sur les femmes. Est-ce qu'elles seront gagnantes? C'est ce que dit le gouvernement.
Non, on ne peut pas le savoir, on ne peut pas le dire. Le gouvernement, aujourd'hui, nous dit, croyez-moi, sur parole. Nous, on veut croire sur pièce. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas quelle sera la proportion de femmes qui seront gagnantes et perdantes. Alors, Sibeth Ndiaye a raison quand elle dit le système aujourd'hui est inégalitaire. C'est vrai, si vous travaillez pendant un trimestre moins de 150 heures, ça ne compte pour rien. Donc, et c'est le cas de beaucoup de femmes puisqu'elles ont des CDD, des contrats précaires. Mais aujourd'hui, on a quand même une règle qui est la règle des 25 meilleures années pour les femmes et des 6 derniers mois pour les femmes fonctionnaires. Et aujourd'hui, cette règle, d'ailleurs, elle nous permet quand même d'évacuer toutes les mauvaises périodes. Donc vous avez les 25 meilleures années. Et aujourd'hui, le gouvernement est incapable de nous dire si cette règle il nous dit aujourd'hui tout va compter. Évidemment, tout va compter. Tous les petits...
Toutes les petites heures qui ne marchaient pas, qui ne rentraient pas. Points, ça, c'était injuste. Oui,
oui, mais les petits points, ça fait des petites retraites. Et le gouvernement n'arrive pas à nous montrer que c'est plus favorable que la règle des 25 meilleures années.
On nous avait vendu que ce serait meilleur, que ce serait une réforme qui serait favorable, très nettement, aux femmes. Et l'Institut de la Protection Sociale vous montre que finalement, ce sera loin d'être le cas. Et qu'il y a notamment... Si vous avez cotisé 30 ans...
Sandrine dit qu'on ne sait pas encore tout à fait.
Non, elle est trop prudente.
Non,
la réforme, elle est clairement sur le papier aujourd'hui plus défavorable aux femmes que ce qu'on nous avait promis.
Sandrine, le mot de la fin pour vous. sur cette question des femmes.
Non, en fait, il a raison sur plein de points. Mais voilà. Effectivement, les 1000 euros pour les femmes, encore une fois, il faudra pouvoir cotiser, attendre l'âge pivot. Et je voudrais juste dire que quand on nous dit qu'il faut attendre 64 ans, ça sera pas nécessairement 64 ans. Ouais. Un âge pivot, ça s'appelle un âge d'équilibre. C'est pas l'équilibre personnel, c'est l'équilibre du régime financier. Donc ça pourrait être 65, 66, 67. Donc il faudra travailler plus longtemps.
Allez, autre affirmation, mais ça suit toujours vos raisonnements. Est-ce qu'il est raisonnable de s'inquiéter, de se dire qu'on va avoir des pensions plus basses, alors même qu'on nous affirme que la valeur du point ne baissera pas et qu'elle va être écrite noir sur blanc, Christian?
Alors, c'est compliqué pour répondre, c'est que la valeur du point, c'est plein de choses. La valeur du point, d'abord, c'est à combien je vais acheter mon point de retraite. Et a priori, dans le rapport de Levoix, on nous dit 10 euros. À chaque fois que j'aurai cotisé 10 euros, j'aurai un point de retraite. Après, la valeur du point, c'est aussi, avec ce point, à combien j'ai le droit de retraite. Et là, le rapport de Levoix nous dit à peu près 55 centimes si je pars à l'âge d'équilibre.
Oui, c'est important.
Sinon, il y a ce que le rapport de Levoix appelle un coefficient de conversion du point, c'est-à-dire à chaque fois que je suis une année en dessous l'âge d'équilibre, je perds 5%. Je suis 2 ans en dessous, je perds 10%. 3 ans en dessous, je perds 15%. À l'inverse, bien sûr, si je fais une année de plus que l'âge d'équilibre, je gagne 5% de plus.
Et l'âge d'équilibre, il bougera chaque année?
Et l'âge d'équilibre, il va pas bouger chaque année, non. Mais ce qu'a dit le Premier ministre, c'est que le fameux 55 centimes, d'accord, à chaque fois que j'ai un point, ça me donne 55 centimes de retraite si je suis à l'âge d'équilibre. Celui-là, il va suivre l'évolution des salaires. Donc là, on dit, on va pas perdre, ça va. Mais, comme vous venez de le dire, ou comme vient de le dire Sandrine, comme l'âge d'équilibre, tous les 12 ans, il va prendre un an, ça veut dire que si vous partez à 62 ans, eh bien, et que l'âge d'équilibre est de 62 ans, parfait, à chaque fois que vous avez un point, vous avez 55 centimes. Mais 12 ans plus tard, comme l'âge d'équilibre est passé à 63, eh bien, vous avez deux personnes, absolument la même carrière, le même salaire, etc., de 62 à 63 ans, eh bien, il y en a un qui va toucher moins de retraite que l'autre. Donc, petit à petit, on va décrocher les retraites des salaires. Et c'est la logique du système. Dans un système par points, on ajuste à la baisse les pensions pour équilibrer le système. Donc, évidemment, on va perdre.
Emmanuel Le Chypre.
Et là, le niveau des pensions n'est pas garanti du tout.
Il y a juste un point sur
la valeur du point.
Non, mais sur l'idée reçue qu'on entend tout le temps, parce que la question, c'est est-ce que les retraites vont baisser?
Oui,
sur l'idée que comme on maintient à 14% du PIB, les montants. Oui, mais ça, c'est de la règle de 3. Je veux dire, la règle de 3, c'est l'ennemi du raisonnement économique. On peut pas raisonner comme ça. Si vous prenez, par exemple, ce que nous dit l'OCDE cette semaine, qui dit, vous faites ou pas la réforme Macron? C'est pas très grave. De toute façon, en 2050, le poids des retraites dans le PIB est amené à baisser à 13,8% du PIB.
Oui, déjà.
Naturellement, déjà. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, cette idée que si on plafonne comme ça à 14%, comme va y avoir de plus en plus de retraités, Mais vous oubliez, faut pas oublier que 14% du PIB, votre PIB, il augmente.
Le gâteau augmente aussi, il grossit aussi.
Et donc, dire que si on limite à 14% qu'il y a plus de retraités, ça va faire baisser les pensions, je dis, c'est plus compliqué que ça.
Mais pourquoi ça baisse déjà, Emmanuel? Parce que les réformes précédentes, faut baisser les pensions.
Absolument. Absolument. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas, cette barre des 14%, c'est pas un mur infranchissable.
Alors moi, ce que j'ai cru comprendre quand même, c'est que les pensions, on sait qu'on va avoir un problème de niveau de pension. On sait que les pensions, elles vont être indexées sur l'inflation, alors que les cotisations, elles sont indexées sur les salaires. Sandrine Foulon, est-ce que j'y vois clair? Est-ce que de toute façon, on sait qu'il y aura un problème de baisse de niveau relatif des retraités par rapport aux actifs?
Absolument.
Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus pauvres, mais ça va, ils vont être
moins relativement. C'est absolument vrai, c'est relativement, il va y avoir un décrochage. Aujourd'hui, on parle d'indexation et il y a un flou total. Parce qu'en fait, il y a deux périodes d'indexation. C'est-à-dire que quand vous cumulez des points, quand vous avez ces points sur ce compte, au moment de liquider votre retraite, le gouvernement dit on va réindexer sur les salaires. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ça, c'est, on oublie Balladur, on oublie 93.
Donc on oublie l'indexation sur l'inflation qui est moins favorable.
Pour les points. C'est-à-dire qu'au moment où, pour qu'il n'y ait pas trop de décrochage de pouvoir d'achat, au moment où vous allez liquider votre retraite, on va vous dire voilà, c'est indexé sur les salaires. Mais après, une fois que vous aurez votre pension, qu'on va vous dire, Madame Ben Saïd, vous allez avoir 5000 euros de pension.
Oh là.
Oui, ça sera
2000
Non, c'est pas ça, le service public. Arrêtez pas en ce moment.
2000 euros de pension, eh bien, ces pensions-là, votre pension, elle sera réévaluée sur l'inflation. Toujours sur l'inflation.
Voilà.
Parce qu'on a demandé dans l'entourage de Jean-Paul Delevoye, il a dit, mais c'est impossible de l'indexer sur les salaires, parce que ça ferait exploser le PIB. Ça, on a fait tourner les calculettes, c'est impossible. Donc, vous allez continuer à avoir un décrochage.
Quand on est à la retraite, ce qui compte, c'est d'avoir un pouvoir d'achat qui s'aligne. Enfin, un pouvoir d'achat. Et donc, ce qui compte, c'est par rapport au coût de la vie, c'est pas par rapport aux salariés.
Sauf qu'Emmanuel, oui, d'accord, mais ça va dépendre aussi, comme on l'a dit, c'est-à-dire avec quel niveau vous allez pas, vous
non, mais
allez
attendez,
partir.
L'histoire, c'est que les retraités, ils gagnent moins que les, enfin, que les actifs. C'est le sens de l'histoire. Vous pouvez pas considérer.
Mais ça sera aujourd'hui. Fini.
Non, mais, ça n'est pas normal, historiquement.
Oui, mais ça va changer.
Les retraités en moyenne, aujourd'hui, alors je vais encore me faire plein de copains, les retraités en moyenne, aujourd'hui, ont un niveau de vie qui est très élevé.
Oui, mais on est tous d'accord.
Il y a des effets patrimoniaux aussi.
Quel que soit le schéma, ça baissera.
D'accord, mais on est obligé de les prendre en compte aussi.
Une autre affirmation, vous voulez bien? Alors, ce système à points, c'est pour nous emmener vers un système de retraite par capitalisation. Là, l'exécutif est très clair, il dit mais pas du tout, c'est pour consolider notre système par répartition. Christian Chevalier.
C'est comme pour les femmes, ce qu'expliquait Sandrine, c'est complètement tordu. C'est complètement tordu dans les détails, c'est pas clair. Et quand il y a un flou, il y a un loup. Enfin bon, on le voit quand on regarde la situation des très hauts salaires, en fait. Aujourd'hui, vous cotisez plein pot jusqu'à 27 000 euros brut par mois. Donc c'est déjà, on est vraiment dans le top des salaires. C'est ce qui permet de calculer nos droits. En plus, on cotise tous à un taux de 2,3% sur l'ensemble du salaire, quel que soit son niveau, et qui n'ouvre aucun droit. La réforme Macron, elle dit quoi? Maintenant, le plafond, ce sera plus 27 000. À partir de 10 000 euros de salaire brut, donc on passe de 27 000 à 10 000, vous cotiserez plus, d'accord? Donc ça va faire perdre des recettes au système, on est d'accord. Alors le gouvernement dit oui, mais aujourd'hui on a cette sorte de cotisation de solidarité qu'on paye sur tout l'ensemble du salaire qui est 2,3, on va le passer à 2,8. Ok, du coup on en perd d'un côté, on en gagne un peu, la différence c'est
là,
quoi?
Là honnêtement ça devient technique, Christian. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que
les plus hauts revenus vont cotiser moins.
Il y a que Sandrine qui a suivi.
Les plus hauts revenus vont cotiser moins. Voilà.
D'accord,
ça va, c'est clair, donc on va perdre des recettes. Est-ce que l'économiste qui est spécialiste des retraites, si vous voulez essayer de comprendre quelque chose, suivez le blog de Michael Zemmour, qui est le meilleur spécialiste, à mon sens, du sujet. Okay. Il dit, combien on va perdre? Et il dit, on va perdre à peu près 3 milliards d'après de recettes. Donc, vous avez un gouvernement qui dit, il faut équilibrer, il y a plein de déficits, et qui, en même temps, rejette 3 milliards de recettes. Et Michael Zemmour, il appelle ça le bon de sortie pour les plus riches du système de retraite par répartition. Parce que, au-dessus de 10 000 euros, quand vous allez commencer à plus cotiser et à plus recevoir de droits, parce que vous cotisez pas, vous recevez pas de droits, qu'est-ce que vous allez faire avec tout cet argent? Vous allez passer à la capi.
Non, et
monsieur Bruno Le Maire, juste à ce moment-là, nous propose des nouveaux produits financiers défiscalisés pour l'argent. Le gouvernement veut pousser à la
capitalisation. Mais encore une fois, c'est le sens de l'histoire. Enfin, je veux dire, il y a
un moment. Mais non, c'est pas le sens de l'histoire, la capitalisation.
Mais il faut considérer que les exceptions françaises, elles sont pas toutes favorables. Hein, les systèmes de retraite, globalement, c'est quoi? Un peu partout. Comme on l'a dit tout à l'heure, déjà, il y en a pas qu'un, il y en a trois. Et puis, il y a plusieurs niveaux. Il y a une retraite obligatoire. En général, vous avez une complémentaire qui est un peu liée aux caractéristiques de votre profession.
Oui.
Après, vous pouvez avoir des retraites supplémentaires qui sont les retraites, qui peuvent être des retraites par capitalisation. Et effectivement, ce nouveau produit, le plan d'épargne retraite que propose Bruno Le Maire.
C'est fait pour ça.
C'est fait évidemment pour ça. Voilà. Mais la logique.
Ah, vous avez un point d'accord avec Christian.
Oui. Non, mais attendez, la réforme des retraites en tant que telle, ça n'est pas une retraite, une réforme qui nous tire vers la capitalisation. On reste dans un système par répartition où les retraités d'aujourd'hui sont financés par les salaires vers la capitale. Mais effectivement, mais c'est le sens de l'histoire.
Il y a Sandrine, mais c'est pas clair. Attendez, si, Sandrine, foulons le mot de la fin là-dessus.
Non, c'est pas clair parce qu'en fait, le gouvernement nous dit je fais pas une réforme à la suédoise. Sauf que en Suède, il y a un régime obligatoire de capitalisation. Il y en a en Allemagne.
Oui, mais il y en a
à peu
pas.
Près partout. Oui, mais il y en a pas. On nous dit il y en aura pas. Mais effectivement, quand vous aurez des hauts salaires et que vous voulez vous constituez un petit matelas, vous allez aller vers de l'épargne privée. Et c'est pas seulement les hauts salaires, c'est pour tout le monde. À partir du moment où les pensions vont baisser, vous allez être tenté de faire de l'épargne salariale.
En quoi c'est nuisible? En quoi c'est catastrophique?
Parce que c'est super dangereux.
Ah non, ça c'est un autre débat.
Le gouvernement suédois est obligé de remettre au pot tellement les gens perdaient de pensions. C'est ça, c'est dangereux.
Je peux vous poser une dernière question? Elle est très rapide.
À la CAPI.
Très rapide. Là, on est à quelques jours des arbitrages. Si la réforme se fait, elle va se faire avec un. Elle ne peut se faire, je vais bien peser mes mots, qu'avec un très gros chèque pour beaucoup de monde. Vous me dites juste, c'est vrai, c'est faux.
Pour les enseignants, c'est caractéristique.
Emmanuel.
C'est-à-dire que si vous voulez que la réforme soit acceptable pour les fonctionnaires, il faut revaloriser aujourd'hui leur salaire mensuel, je dis bien mensuel, d'environ 500 euros par mois. Donc, vous voyez les sommes que ça engage.
Christian.
Oui, il faudra un gros chèque, oui.
Et oui, il faudra un gros chèque. Je m'interroge juste pour les gens du privé, parce que l'employeur public peut le faire, le gros chèque, mais qu'est-ce qui va se passer dans les entreprises privées?
Tout à fait.
Les débatteurs de ce samedi 7 décembre, Sandrine Foulon, Emmanuel Le Chip, Christian Chavagneux, merci à vous. Dans quelques minutes, l'invité du Magéco, c'est Alain Grisé, la voix des commerçants, des artisans, des libéraux dans ce débat. Mais d'abord, avant de poser cette question, justement, et maintenant, quelle piste de sortie? Faisons ensemble un flashback avec notre reporter Anaël Verzo. Retour dans la manifestation de jeudi. On prend le temps d'écouter les revendications.
Alors, vous appelez comment, monsieur?
Samy, je suis conducteur de RER. En tout, 17 ans de carrière à la RATP. Machiniste, conducteur de métro et puis pour finir, conducteur de RER. Donc on part bien sûr travailler 3-8. Le matin, commence à 4h du matin. Et la semaine d'après, on est en après-midi. Donc, on finit à 20h, 21h. Et la semaine d'après, on finit à 2h du matin. Voilà.
Les horaires décalés.
Voilà, les privilégiés, voilà.
Vous, Samy, vous partez à quel âge?
Aujourd'hui, contrairement à ce qui se dit actuellement, on ne part pas à 52 ans, c'est impossible. Parce qu'on peut partir à 52 ans avec une retraite de misère. On part avec 1000 euros si on part à 52 ans. Donc, avec toutes les réformes qui ont été faites auparavant, depuis 2003, 2009, on part à 58 ans pour un conducteur. Il ne faut pas oublier qu'en fait, ce n'est pas tous les agents RATP. C'est seulement les gens qui conduisent, les conducteurs, machinistes. Les gens, en fait, qui ont des boulots pénibles. Les gens qui sont dans les bureaux, ils partent à 62 ans. Donc, quand je suis rentré, moi, j'avais un contrat social avec mon entreprise, hein, qui disait comme quoi, voilà, on gagne un peu moins, on travaille avec des horaires très difficiles, c'est-à-dire le week-end, on travaille, le 24, on travaille. Donc, les fêtes de famille, on ne connaît pas. Et dans une contrepartie, on part un peu plus tôt. C'est parce qu'en fait, notre corps ne pourra pas aller jusqu'à là, 60 ans. Un conducteur à 60 ans, c'est un conducteur qui est dangereux.
Et avec la réforme des retraites, là, qu'est-ce que vous perdez?
Je devrais travailler 7 ans de plus et pour perdre après 20% en moins.
Vous avez beaucoup à perdre.
Beaucoup à perdre et beaucoup à travailler. Donc du coup, c'est pas travailler plus pour gagner plus, c'est travailler plus pour gagner moins. C'est pas possible.
Vous faites partie, on appelle ça les régimes spéciaux.
C'est la communication de M. Macron pour faire avaler la pilule aux autres, c'est qu'il fait croire qu'il s'attaque à un régime spécial. C'est faux, il s'attaque à tout le régime, à tous les Français et même les plus démunis. Les gens qui sont derrière nous, mes enfants, ma fille a 10 ans. Donc j'espère qu'elle fera des grandes études. C'est quoi? C'est 25 ans à peu près les grandes études. Et si on a de la chance de trouver du travail tout de suite et ne jamais s'arrêter, bah ma fille devra partir à la retraite à 68 ans. On nous fait croire comme quoi qu'on vit plus longtemps, certes, mais c'est pas ça qu'il faut regarder, il faut voir. Jusqu'à quel âge on vit en bonne santé. Autour de moi, tous les jours j'entends, un tel il a un cancer, un tel il a une maladie longue durée, un tel à 55 ans, 57 ans malheureusement les pépins de la vie arrivent. Et voilà, on ne pourra pas faire une carrière longue, c'est impossible jusqu'à 62 ans. Voilà.
Merci. Hein.
Merci à vous.
Au revoir.
Et dans son dos, il y a un dessin qui a sans doute été fait par l'un de ses deux enfants. Il est écrit « Merci papa, tu te bats pour mon avenir ».
C'était jeudi début d'après-midi à Paris devant la gare du Nord. Voilà Samy, le conducteur de RER, et puis autour de lui, On voit des cheminots, on voit des jardiniers de la ville de Paris, des professionnels de la santé, des danseurs de l'opéra, des pompiers en tenue et des policiers en civil. Ça a été une mobilisation massive dans laquelle on a retrouvé énormément d'enseignants comme Clara et Olivier qu'a aussi rencontré Anaël Verzo.
Nos retraites enseignants, en plus loin saignants, avec un A. Bonjour.
Ah Clara, c'est pour toi.
Oh, ah bonjour.
Bonjour.
Je travaille à France Inter.
Ah oui.
Vous êtes prof de quoi?
On est enseignant en premier degré, donc élémentaire.
Et vous, vous appelez comment?
Clara.
Clara, vous avez quel âge?
26 ans. Ouais, bah, du coup, je suis enseignante en CP, vers Noisiel, Torcy.
Et si c'est pas indiscret, vous gagnez combien par mois?
Là, je suis à 1839 net.
Et est-ce que vous avez calculé combien est-ce que vous aurez comme retraite dans le système actuel tel qu'il est aujourd'hui?
Si on est à 3000 euros en fin de carrière, normalement on peut espérer avoir 2250 euros de retraite. Aujourd'hui, sur les calculs, c'est une fourchette entre 1100 et 1400 euros.
Avec le nouveau système?
Avec le nouveau système. En fait, on perdrait entre 300 et 900 euros. Oui.
Et vous vous appelez comment, monsieur?
Olivier.
Vous êtes enseignant depuis combien de temps?
Depuis 10 ans.
En élémentaire aussi?
En élémentaire, oui.
Donc vous travaillez pour un salaire de combien là en ce moment?
En ce moment 1949.
Sachant qu'on travaillera jamais jusqu'à 67 ans, je vois pas qui tiendra.
Même en bonne santé. Vous,
vous voulez enregistrer le bruit de nos classes, le bruit d'une cour de récréation? On vous invite. Hein. Après, chaque métier a ses difficultés. Nous, on en a. Il faut les prendre en compte. Et effectivement, il faut différencier selon chaque métier.
Donc André Legault, je suis délégué syndical central dans une entreprise d'ascenseur.
Laquelle, on peut la citer ou pas?
Je préfère pas.
D'accord, pas de souci.
Une grande entreprise.
Votre retraite, c'est dans combien de temps?
Alors elle pourrait avoir lieu dans 2 ans, je suis carrière longue, mais je pense que je vais aller un petit peu plus loin pour continuer de vivre décemment.
Parce que si vous partez dans 2 ans, votre retraite, elle sera de combien?
3000 euros. Bah, je pense essayer d'avoir 500 euros de plus.
Si la réforme passe, qu'est-ce que ça change pour vous?
Ah, écoutez, si la réforme passe, ça ne change rien pour moi, puisque la réforme concerne les personnes qui seraient nées après 1963. Mais aujourd'hui, je ne suis pas dire quel est l'impact de la réforme. Ce que j'ai compris, c'est qu'on était dans une réforme systémique, complète. C'est-à-dire que tout ce qui était lié au système par répartition est en train de tomber.
Même les cadres ont à perdre avec la réforme?
Alors, les cadres ont à perdre, et je pense que le régime également a à perdre. Je suis cadre dans une entreprise, je suis au-dessus du plafond de la sécurité sociale. Et tout ce qui est en dessous du plafond de la sécurité sociale permet d'avoir une solidarité entre les générations. Si demain, on a bien entendu le message que 1 euro cotisé est égal à X euros de retraite, ça veut dire que ma retraite va être complètement individualisée et il n'y a plus de système de répartition, c'est un système individuel. Et aujourd'hui, je pense que c'est l'enjeu de la réforme systémique des retraites, c'est d'aller vers un système un petit peu à l'anglo-saxonne où chacun va essayer de se faire sa retraite par capitalisation. Et le système par répartition, il va exploser.
Vous pensez que c'est le but non avoué du gouvernement?
Alors je pense que c'est un des buts. Et l'autre élément, c'est aussi, je pense, que le régime de fonctionnement de l'État absorbe beaucoup d'euros. Et je pense que le gouvernement lorgne sur les réserves qui ont été faites par les partenaires sociaux dans les différents régimes pour essayer de maintenir et de s'adapter en fonction de l'évolution démographique des différents régimes.
Et pour vous, est-ce que les 7 à 17 milliards qui manqueraient en 2025, c'est un problème? Et 7 à 17 milliards de déficit?
Non, c'est pas un problème quand vous avez des systèmes qui ont des réserves.
Il y a suffisamment de réserves pour absorber les 7 à 17 milliards?
170 milliards, 170 milliards cumulés.
Alors d'après vous, pour quelle raison est-ce que le gouvernement insiste sur les 7 à 17 milliards qui manqueraient en 2025 et qui justifient du coup la réforme?
Je pense que c'est la manipulation de l'opinion publique pour faire passer une réforme qui est beaucoup plus profonde et qui va aller vers les fonds de pension à l'anglo-saxonne, comme je le disais tout à l'heure.
Ça va? Vous êtes infirmière?
Aide-soignante.
Et vous vous appelez?
Élodie.
Vous travaillez où?
À l'hôpital des Temples.
Et vous travaillez depuis combien de temps?
19 ans.
Vous avez une idée de votre retraite? Dans le système actuel, si rien ne bouge, est-ce que vous savez combien vous allez gagner comme retraite?
Quasiment rien. Un aide-soignant en fin de carrière, il part avec une retraite de 1100 euros.
Et vous, du coup, alors votre salaire, il est de combien?
Là, en net, je suis à 1900 euros. Et du coup, arrivé à la retraite, je serai à 1100 euros. Voilà.
Alors, comment vous allez faire? Comment vous envisagez
Eh bien, je viens manifester. J'ai pas de solution.
Et ça, c'est avec le régime de retraite tel qu'il existe aujourd'hui?
Oui.
Et avec le futur régime de retraite, si jamais ça passe?
Je sais pas.
Ils allongent les retraites. Ils rallongent l'âge de travail.
De départ.
Ouais, de départ.
J'ai mal partout, je pourrais jamais aller jusqu'à la fin de la retraite.
On pourra pas y aller, on a mal au dos, on a des problèmes aux épaules.
Et vous avez quel âge, les filles, là?
39 ans.
39?
46.
C'est pas possible physiquement.
Parce qu'au-delà de 60, c'est pas possible, quoi.
Non, c'est pas possible. Parce qu'avec de l'effectif en plus et du matériel, peut-être qu'on pourra aller jusqu'au bout. Mais là, on n'a plus personne, les congés maternité sont même plus remplacés. Cet été, on s'est retrouvés, au lieu de 7 aides-soignantes, à 3. C'est pas possible. On peut pas faire le travail de 7 à 3.
Et on manifeste pas que pour les retraites, on manifeste aussi pour la précarité qu'il y a en France en général. Pas pour nous, mais pour d'autres personnes qui gagnent encore moins que nous. C'est aussi pour ça qu'on est là.
Alors je quitte la manifestation. Et ici on parle de 1,4 à 1,5 million de manifestants. Le ministère de l'Intérieur parle lui de 800 000 manifestants. Une intersyndicale va voter une nouvelle grève lundi. Et Édouard Philippe doit donner ses arbitrages mercredi. Alors que peut changer la mobilisation au projet du gouvernement? Raymond Soubi, c'était le conseiller social de Nicolas Sarkozy. Et il était l'artisan de la réforme des retraites de 2010. Est-ce que d'après vous, cette mobilisation peut changer quelque chose?
Eh bien écoutez, ce qui est sûr, c'est qu'elle met une pression considérable sur le gouvernement. Là, on voit bien que sa stratégie est très claire. Elle consiste à dire la réforme systémique telle que je l'ai définie, elle s'appliquera. Et en même temps, le gouvernement est prêt à faire des concessions, je pense, sérieuses sur plusieurs plans qui sont donner du temps au temps, c'est-à-dire faire que des générations d'actifs actuels ne soient pas concernées par la réforme. Et donc, ils dorment sur leurs deux oreilles et disent « nous ne sommes pas concernés ». Et donc, nous n'avons pas à descendre dans la rue, premier point. Deuxième point, à donner des compensations à certaines catégories très touchées, par exemple aux enseignants, parce que si rien n'était fait, leur niveau de pension baisserait beaucoup.
Jusqu'à 900 euros par mois, d'après ce qu'ils m'ont dit.
Exactement, exactement. Et donc, en donnant des compensations...
Des compensations par métier, est-ce que c'est une façon, selon vous, de préserver les régimes spéciaux, finalement, sans le dire?
Oui, ça consiste à maintenir, je dirais pas des régimes spéciaux, mais des systèmes spéciaux pendant assez longtemps, avant d'arriver à un système universel.
Mais Raymond Soubi, vous pensez que la réforme se fera à un moment donné, même si elle prend plus de temps que ce que le gouvernement avait envisagé? Vous dites la réforme se fera, oui, de toute façon.
Oui, on arrive au sommet par des chemins un peu tortueux. Eh bien, c'est un peu ça qu'essaie de faire le gouvernement. Et il compte sur des syndicats comme par exemple la CFDT ou l'INSA, parce qu'ils sont assez ouverts à la négociation. Je rappelle qu'ils n'ont pas été dans la journée nationale d'action, et qu'ils sont dans leur langage aujourd'hui très prudent, donc il espère que ça va réussir à embarquer ces syndicats, et je crois qu'il a de bonnes chances d'y arriver. La grande inconnue étant de savoir si les bases, parce que c'est quand même la base qui fait grève et qui est très 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 échauffée aujourd'hui, va rentrer au bercail ou ne va pas rentrer au bercail. Si les bases ne les suivent pas, là le sujet deviendra beaucoup plus difficile.
Au cœur de la manifestation du 5 décembre, les inquiétudes et les attentes, c'était le reportage d'Anaël Verzeau.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
Et l'un des acteurs de cette réforme des retraites est avec nous dans le studio 521. Bonjour Alain Grisé.
Bonjour.
Vous êtes à la table des négociations avec les autres partenaires sociaux face au gouvernement. Vous êtes le président de l'UDP qui représente les petites entreprises, même les très petites, les artisans, les commerçants, les libéraux. Donc ça va du patron maçon à l'esthéticienne en passant par les taxis. Ça fait donc un ensemble de gens avec des intérêts assez différents, des gens discrets. Cette réforme des retraites, est-ce que vos adhérents sont pour ou contre?
Globalement, lorsqu'on dit que c'est un régime universel, qu'il y a plus de justice et que ça donne de la perspective, en particulier pour les plus jeunes, dans ces définitions-là, je pense que majoritairement, d'ailleurs les Français le disent, à 70%, ils sont plutôt favorables à une réforme.
Mais ça veut dire, oui, mais est-ce que dans ce qui est dessiné pour vos adhérents, pour les artisans, les commerçants, les taxis, est-ce que dans ce qui se dessine, c'est positif pour eux?
Alors, globalement, les gens disent on est favorable à la réforme.
Et ça, puis c'est
derrière, il faut regarder quelle est la réforme. Et c'est là où il faut, cas par cas, chacun regarde quelle sera sa situation. Alors nous avons travaillé à l'UDP pour les artisans, les commerçants, les professionnels libéraux. C'est vrai que sur la partie artisan-commerçant, il y a une inquiétude légitime, c'est de dire, mais est-ce que ma cotisation va augmenter? Je paye aujourd'hui 24,75, on dit que ce serait 28,12 pour tout le monde, donc là il y a plus de 3 points, il n'y a pas de raison, je cotise plus. Et donc à l'UDP, nous avons travaillé avec le haut commissaire de façon à ce qu'au bout du compte, il n'y ait pas un euro à payer en plus. Et donc nous avons proposé qu'il y ait une modification de l'assiette sur laquelle la cotisation est calculée, de façon à ce que, avec un nouveau taux, mais avec l'assiette modifiée, on n'ait pas de cotisation en plus.
Donc pas de cotisation en plus, ça veut dire pas de pension en plus non plus?
Mais non, ça va être pareil, puisque le taux augmente. Donc on va avoir un taux plus élevé, avec une base moins forte. Au bout du compte, le résultat en termes de pension sera le même. Mais la cotisation aussi. Donc ça, c'est un point qui pour nous est positif. On attend que ça soit confirmé.
Donc ça sera mercredi 12h, le rendez-vous voilà. Est pris. Oui.
Deuxième point, c'est vrai que beaucoup de nos collègues, on regarde dans l'histoire, ont eu des carrières qui ont été hachées, ont quelquefois travaillé une année ou deux sans avoir un bénéfice suffisant pour valider 4 trimestres. Dans le cas de présent, il n'y aura plus cette situation-là, puisque tous les trimestres travaillés vont se transformer en points. Et beaucoup de nos collègues avaient malheureusement des retraites inférieures à 1 000 euros.
Par exemple
Par exemple, dans toutes les professions.
D'accord.
Hein, vous savez, quand vous êtes chef d'entreprise, sur 40 ans de travail, vous pouvez aller avoir 2, 3, 4 mauvaises années, et ça descend vite. Et donc là, on voit bien, un peu comme les agriculteurs, que beaucoup de nos collègues auraient cette garantie d'une retraite à 1 000 euros. Puis on a beaucoup travaillé aussi sur les carrières longues. Aujourd'hui, d'après le haut-commissaire, on garderait le dispositif des carrières longues, qui permet à nos collègues qui ont commencé très tôt à partir avec un taux plein plus rapidement que ce qui est prévu pour ceux qui ont pas eu ces carrières longues. Donc globalement, sur la partie artisan-commerçant, on considère qu'aujourd'hui, si c'est confirmé,
vous êtes gagnant.
Les choses pourraient aller.
Non mais là, on est en train d'identifier les perdants et les gagnants. Donc vous pensez que vous êtes sur la partie artisan-commerçant, il serait plutôt gagnant.
Je pense qu'une partie de nos collègues serait plutôt gagnant. Après, on a des difficultés particulières qui ne sont pas encore totalement résolues avec nos collègues des professions libérales. D'abord parce qu'il y avait 11 caisses, alors que les artisans commerçants n'ont qu'une seule. Et donc il y a la difficulté de professions qui ont mis en place des dispositifs, qui étaient dispositifs légitimes par profession, et les différences sont assez considérables. Et donc ce que nous avons demandé au gouvernement, qui l'a accepté, c'est qu'il y ait des négociations profession par profession, pour qu'on regarde, dans chaque cas, d'où vous venez, à quel endroit on doit atterrir et qu'est-ce qu'il faut faire pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans pour que la transition permette d'atterrir sans qu'il y ait de conséquences néfastes.
Donc on comprend, Alain Grisé, que là finalement ce qui se dessine, c'est de plus en plus clair. C'est, régime universel, ça ne veut pas dire universalité des règles. Là ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ça se négocie métier par métier, une période de transition, des taux de cotisation particulières. C'est ça qui vous va, en fait.
Non, le taux de cotisation sera là où il est universel. C'est d'abord que c'est un régime à points et c'est pour tout le monde la même cotisation, c'est 28,12. Bon, après, effectivement...
Sauf pendant une période de transition.
Il y aura la période de transition, naturellement.
De 10-15 ans, par exemple.
Ben oui, parce que quand vous avez les infirmières libérales qui payent 14% de cotisation aujourd'hui, leur dire qu'elles payent 28% du jour au lendemain, c'est infaisable. Et même pendant la période de transition, les infirmières libérales, elles sont payées en grande partie par la Sécurité sociale, souvent à des taux de rémunération qui sont tout à fait ridicules. Donc il serait logique qu'il y ait en parallèle, comme un peu pour les professeurs, en parallèle de l'augmentation de la cotisation, une augmentation de leur rémunération.
Mais alors justement, Alain Grisé, quelle est votre intime conviction? On entend qu'il faut compenser. Il va falloir compenser les régimes spéciaux, il va falloir compenser les infirmières, il va falloir compenser les professeurs. Est-ce que c'est ça les arbitrages? Est-ce que le gouvernement a les moyens de compenser tout le monde? On pense que non. Et vous?
Il est évident que cette réforme est une réforme très compliquée. D'abord, nous l'avons dit depuis le début à l'UDP, c'est sûrement... la retraite, le seul sujet sur lequel l'ensemble des Français peuvent se sentir concernés et sont concernés. Et naturellement, tout à l'heure, ça a été dit par Emmanuel Le Chiffre, c'est un projet extrêmement ambitieux que le président de la République veut mettre en place. Ça ne peut pas se faire sans qu'il y ait des efforts de fait et sans prendre en compte les situations de chacun. Sinon, de toute façon, ça ne se fera pas. Et donc, je pense que légitimement, chaque personne qui négocie, négocie en fonction des situations qu'il connaît.
Il y aura des perdants et des gagnants à la négo, tout simplement.
Il pourra y avoir des perdants et des gagnants, sans aucun doute. Mais peut-être que pour l'État, à un moment donné, dans un premier temps, il y aura un coût supplémentaire.
Sur la méthode, 2 ans et demi de concertation, est-ce que c'est normal d'en être là aujourd'hui avec une protestation aussi massive ?
Ah, nous avons dit à l'UDP que pensons qu'on aurait pu aller plus vite et qu'à partir du moment où Jean-Paul Delevoye avait remis son rapport, toute la période depuis est un peu supplémentaire et nous considérons un peu inutile.
Rapport 18 juillet. Hein.
Voilà, un peu inutile.
Bon, on a perdu quelques mois.
Le président de la République dit j'avais besoin de faire de la concertation, sinon on me l'aurait reproché. Et donc, il a souhaité prolonger. Mais en tout cas, pour les partenaires sociaux, cette période-là n'a pas apporté de choses de plus. Nous avions dit pendant 16 mois déjà beaucoup de choses. 2 réunions par mois de 3 heures. Vous imaginez bien qu'en 32 réunions, chacun peut dire ce qu'il avait à dire.
C'est possible que le gouvernement retire sa réforme ? C'est ce que demandent certains des protestataires dans la rue. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Écoutez, moi, j'ai vu le président de la République hier, comme beaucoup d'autres l'ont vu depuis une semaine. Il m'a l'air déterminé.
Il vous a dit quoi ?
Le Premier ministre également. Pour lui, la réforme doit se faire. Parce qu'il a l'intime conviction que sur le long terme, c'est quelque chose qui permettra d'avoir une visibilité et ne pas... Le propos qu'il m'a tenu hier, c'est de dire on va arrêter de faire des réformes tous les 5 ans. Puisque quand ce régime-là sera mis en place, ça sera un régime qui sera, pour lui, définitif. Donc moi, je l'ai senti déterminé. Maintenant, je ne peux pas savoir exactement comment les choses vont se dérouler dans les prochaines semaines.
Tout le monde a en tête les 3 semaines de grève de 1995. Vous représentez aussi les commerçants. C'est une possibilité ? 3 semaines de grève, vous êtes en train de vous y préparer ?
En tout cas, c'est pour nos collègues quelque chose d'anxiogène, d'inquiétude. Vous imaginez que pour, en particulier, nos collègues de l'alimentation, le mois de décembre, du 5 décembre au 5 janvier, en mettant la galette des rois, c'est pour eux 2 mois, 2 mois et demi de chiffre d'affaires. Ils espéraient beaucoup de cette période-là pour récupérer un petit peu qu'ils avaient perdu en début de l'année avec le mouvement des Gilets jaunes. Et donc si, dans la même année, nos collègues prennent à la fois au début de l'année le mouvement des Gilets jaunes, à la fin de l'année la manifestation avec des blocages, il est évident que dans le premier semestre, il y aura des milliers de licenciements et de fermetures d'entreprises. Donc nous, on respecte naturellement la liberté de manifestation. Mais par contre, ce qu'on a demandé au gouvernement, c'est de tout faire pour qu'il y ait également la liberté de travail.
C'est-à-dire ?
De façon à ce que nos collègues puissent réellement travailler comme il se doit pendant cette période, répondre aux besoins du consommateur. Vous savez, Noël, c'est quelque chose d'important pour les Français. Et donc, il faut que les gens puissent faire leurs achats dans cette période-là correctement et librement.
Alain Grisé, la position des artisans, des commerçants et des libéraux, le président de l'UDP. Merci d'avoir été sur France Inter.
Merci à vous.